du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, on ne peut commencer mieux un sermon, et aujourd'hui tout particulièrement sur la Sainte Trinité. Sujet ô combien impénétrable et haut, auquel nous sommes invités dans notre méditation de ce jour par les textes que nous donne l'Écriture et la Divine Liturgie. Je voudrais commencer d'abord par une petite anecdote, car je suis sûr que vous connaissez tous cette anecdote, mais peut-être l'avez-vous mal interprétée. Il s'agit de saint Augustin se promenant le long de la mer et voyant un enfant, ou peut-être un ange, faire un trou dans le sable avec sa main. Et le grand saint Augustin de dire à l'enfant « Mais que fais-tu ? Mais je fais un trou afin de mettre la mer dans mon trou. » Et saint Augustin de dire à l'enfant « Mais ce n'est pas possible, la mer est immense et ton trou est tout petit, tu ne pourras mettre la mer dans ce trou. » Et l'enfant de lui répondre « Moi, j'aurais mis la mer dans ce trou avant que toi, tu aies compris le mystère de la Sainte Trinité. » Saint Augustin était en train de réfléchir à cette question et a d'ailleurs écrit un traité remarquable. Alors il ne faudrait pas mal interpréter cette anecdote. Il ne faut pas se dire « Alors Dieu est immense, c'est incompréhensible, alors ne comprenons rien, faisons donc nos signes de croix comme on nous l'a dit, mais il n'y a rien à comprendre. » C'est tout l'inverse. Parce que saint Augustin a bien compris que l'enfant avait raison et que la mer qu'il a mis dans le trou, c'est vraiment de la mer. Il en va de notre intelligence. Dieu est le mystère de la Trinité qui est forcément une révélation, pas quelque chose qu'on peut comprendre d'abord. Eh bien, si nous le méditons, le contemplons, nous pouvons comprendre quelque chose de cette réalité de Dieu. Évidemment, tout comme la mer ne peut pas entièrement être contenue dans le trou, toute l'intelligence de la connaissance de Dieu ne peut pas être contenue dans notre petit cerveau qui est fini. C'est donc une invitation à creuser sans cesse plus profondément pour que en nous ce trou se fasse accueil du mystère de Dieu et de sa Trinité. Voyons d'abord ce que Dieu Trinité est en lui-même pour ensuite voir ce que Dieu Trinité est dans le monde. D'abord, Dieu en lui-même. Nous entrons dans l'intimité du Seigneur. C'est-à-dire que, comme d'ailleurs les païens l'avaient déjà compris, je parle des philosophes, si Dieu est immense, s'il est éternel, s'il est tout-puissant, il n'y a forcément qu'un seul principe, il n'y a forcément qu'un seul Dieu. Ceci est connaissable par la raison. Ceci a été révélé également dans l'Écriture. Mais attention, bien sûr que nous sommes heureux d'être les héritiers de ceux qui savent que Dieu est un. Mais Dieu est un, c'est vu de l'extérieur, car nous savons que Dieu est un. Le mystère de la Trinité nous donne de regarder Dieu de l'intérieur. Car Dieu est un, ça ne veut pas dire qu'il soit esselé, qu'il soit tout seul un monôme qui se promène. Non. Dieu est un parce qu'il est profondément uni, mais en lui, une richesse incroyable se trouve, et cette richesse, c'est trois personnes. Pour éviter de mal comprendre cette réalité, il faut éviter la tentation païenne de croire que Dieu, comme je connais par analogie, je sais ce que c'est qu'un bonhomme, Dieu, ça doit être un bonhomme en surpuissant, en surgrand, en éternel, en immortel. Dieu n'est pas un bonhomme, ni une bonne femme d'ailleurs. Dieu est un être en lui-même, il est l'être même, et il n'a pas de comparaison avec nous, il est sui generis, il est Dieu. Voilà que nous pénétrons dans le mystère de la Trinité, dans la réalité de ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire, et nous connaissons son petit nom intime, il est charité. Deus caritas est. Cela veut dire qu'il est un échange perpétuel, et c'est pour ça qu'il y a trois personnes, car cet échange se donne et se reçoit perpétuellement à l'intérieur de lui-même, dans son être. Le Père engendre le Fils, qui eux deux spirent le Saint-Esprit, et cet échange perpétuel est l'essence même de Dieu. Voilà ce que nous avons l'extraordinaire chance de savoir. Nous avons comme un petit trou, une lorgnette comment, pour savoir comment est Dieu en lui-même. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, des traces multiples de cette réalité existaient, et cela me permet de dire comment on peut le représenter, car c'est difficile de représenter Dieu Trinité. C'est difficile, et pourtant déjà, quand l'Esprit de Dieu planait sur les eaux dans la Genèse, on a remarqué que Elohim, c'était un pluriel. Que donc Dieu est pluriel. Dieu n'est pas singulier. Il est unité. Et lors de la philoxénie d'Abraham, c'est-à-dire le visiteur auquel Abraham accorde l'hospitalité, eh bien, si vous lisez ce texte très troublant, il s'agit d'un visiteur, et puis ils sont trois, et puis il repart tout seul. Et oui, un petit clin d'œil que le peintre Roubleff, Saint Roubleff, un peintre de l'orthodoxie russe, qui a été reconnu saint et que donc nous reconnaissons, car nous reconnaissons les saints canonisés par l'Église orthodoxe, eh bien Roubleff représente, vous connaissez cette icône, cette visite de trois anges, ces envoyés de Dieu ou Dieu lui-même, comme trois anges autour d'une table, et ils ont exactement tous les trois la même tête. C'est la seule manière conforme, droite, de représenter la Trinité. Nous ne connaissons le Père et l'Esprit que dans le visage du Christ. Qui m'a vu, a vu le Père, et si je m'en vais, l'Esprit viendra avec vous, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit-il aujourd'hui en saint Marc. Et oui, voilà celui qui nous montre le Père, c'est le Christ. Bien sûr, la Trinité s'est manifestée, ce n'est pas une invention de l'Église au cours des siècles, car j'ai encore vu cette bêtise il y a peu. Non, s'il suffit de lire l'Écriture sainte, il suffit de lire le baptême du Seigneur et de voir que les cieux s'ouvrent, que la voix du Père se fait entendre et que l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Bien sûr, comme, ce n'est qu'une comparaison, ce n'est qu'une manière approximative d'apprécier la présence de Dieu qui n'est pas une colombe, pas plus qu'il n'est une langue de feu. Cela en est une manifestation visible. Il y a un magnifique tableau, peut-être le connaissez-vous, cette fois-ci dans la tradition occidentale, d'Enguerrand Carton, un peintre français du XIVe siècle, qui représente le couronnement de Marie au ciel. Au-dessus de son diadème, le Saint-Esprit représenté sous forme d'une colombe. C'est possible, c'est un symbole. Et les deux ailes de la colombe entrent dans la bouche ou sortent de la bouche des deux personnages, le Père et le Fils. Et si vous les regardez, ils ont tous les deux exactement le même visage. Voilà comment nous connaissons le Père, voilà comment nous connaissons l'Esprit en regardant le Christ qui s'est donné à connaître à nous parce qu'il s'est fait homme. Et que là, c'est à la hauteur de notre connaissance. Mais en regardant le Christ, la vera icona, l'icône vraie de Dieu, l'icône vraie du Christ, vous voyez Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons représenter Dieu, car nous ne faisons pas une représentation de Dieu imaginée, mais nous laissons Dieu se montrer à nous. Voilà ce que Dieu est en lui-même. Voilà comment il vit et voilà comment il se fait connaître à nous. Alors bien sûr, dans un deuxième temps, il faut nous demander comment nous en participons. Comment nous sommes invités à entrer dans ce mystère trinitaire qui est la vie intime de Dieu. Cette vie, nous lui attribuons des actions en rapport à nous. Je dis d'abord que, évidemment, le Père n'est jamais séparé du Fils qui n'est jamais séparé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans un instant, vous allez communier au corps réellement, substantiellement présent du Christ sur l'autel et vous allez le recevoir en vous, car il va se faire conforme à vous selon votre nature humaine afin de vous informer de la nature divine. Évidemment, vous le recevrez parce que vous êtes les fils du Père, parce que vous êtes les membres du corps du Christ qui va donc s'identifier à vous. Parce que vous le faites spirituellement, toute communion est faite dans l'esprit, si elle est une véritable communion, dit saint Thomas d'Aquin. Alors le Père, nous lui attribuons la création, le Fils la rédemption, le Saint-Esprit la sanctification. Au Père, la création, car il est l'unité. Il est la cause première du monde. Il est la source de tout. Voilà pourquoi, en lui, il nous est donné de connaître l'éternité, ce qui est immuable, hors du temps et de l'espace. Il est Dieu un, cette source première, cette cause première du monde. Rendez grâce à Dieu souvent en contemplant la création. Rendez grâce à Dieu le Père qui nous a donné d'être et d'exister dans cette unité, y compris l'unité de la nature humaine que l'Église proclame depuis toujours et que les scientifiques viennent de découvrir il y a à peine 30 ans, s'apercevant que, avec leur découverte scientifique, ils ont découvert l'eau chaude, c'est que, grâce au génome, eh bien que tous les hommes viennent d'une même souche. Mais ça, nous le savions, nous, depuis la Genèse. C'est le Père qui nous donne d'être un. C'est le Fils qui est le Rédempteur, c'est-à-dire la cause exemplaire du monde. Si le Père est la cause première, le Fils est la cause exemplaire, c'est-à-dire en qui tout a été créé. Nous avons tous été créés dans le Christ dès avant le commencement du monde. Oui, il est la cause de notre formation, il nous fait voir la beauté du monde. Toute beauté morale ou physique que vous voyez se rapporte d'une manière ou d'une autre à la personne même du Christ, qui nous donne ainsi de connaître la beauté de l'humanité. Le Concile Vatican II le dit dans une formule ramassée remarquable, « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Christ ». Voilà cette rédemption opérée en nous grâce au Christ qui nous sanctifie. Enfin, le Saint-Esprit, notre sanctificateur, si le Père était la cause première, si le Fils est la cause exemplaire du monde, le Saint-Esprit en est la cause finale. C'est lui qui a charge de nous amener, de parachever en ce monde l'œuvre du Fils, c'est-à-dire de nous rendre saints, de nous rendre conformes à Dieu. C'est lui qui nous fait connaître l'harmonie de toutes choses, l'ordonnancement. Il est notre sanctificateur. Abandonnez-vous à lui, il vous emmènera très certainement à la fin, c'est-à-dire à votre fin, qui n'est pas la mort, mais qui est Dieu. Voilà comment nous participons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et dans l'Église, nous ne faisons pas de prière qui ne soit sous ce vocable. Chacune des prières de la messe se termine par cette invocation trinitaire. Chacune de nos pensées devrait nous élever par le Christ au Père dans son esprit. C'est ainsi que nous serons vraiment les baptisés que nous sommes. Marc l'a bien et Matthieu aujourd'hui nous le fait voir. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes baptisés. C'est au nom des trois personnes que nous sommes marqués du sceau éternel de Dieu. Et chacun de nos actes bons nous fait entrer à l'intérieur de cette Trinité sainte qui n'est pas juste une référence, mais qui est une vie en elle-même. Tout acte bon vous inscrit en Dieu. Toute contemplation de Dieu, du Christ, de l'Esprit vous met en lui. Je ne peux mieux terminer qu'en citant Élisabeth de la Trinité, cette religieuse qui a pris ce nom pour une raison bien précise. Elle a conformé sa vie à cette Trinité sainte. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. Immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous. Ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ainsi soit-il.